Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. La réforme des retraites en France, la CGT ira jusqu'au bout, tout comme Matignon, dont le locataire Édouard Philippe est chargé d'entrer dans le détail du texte mercredi prochain. Séminaire gouvernemental ce soir à l'Élysée, les adversaires politiques d'Emmanuel Macron insistent sur ses hésitations, ses revirements, jusqu'à brouiller son image. Commentaire à cet égard de l'analyste Denis Jambard. Une manifestation de grande envergure à Hong Kong pour ponctuer un semestre de contestation. Précision d'Angélique Forget. Et puis au sommaire de la face cachée du Globe signée Nabila Hamel, l'élimination lors d'une reconstitution de quatre hommes accusés de viol fait débat en Inde. Mais tout d'abord, malgré la trêve annoncée fin août, la province syrienne d'Idleb est régulièrement la scène d'actes de guerre. Ce fut le cas dans sept villages pris pour cible hier par les hélicoptères du régime qui ont largué des barils d'explosifs sur les populations. Au moins 20 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les précisions à Beyrouth d'Aurélien Colli.
200 civils tués, dont 50 enfants, c'est le bilan des bombardements aériens sur Idlib depuis fin août, depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu qui n'a jamais été vraiment respecté par le régime de Damas et son allié russe. Depuis avril, en fait, les quelques 3 millions de civils qui vivent dans ce dernier bastion rebelle sont sous menace quasi permanente. Une stratégie de la terreur qui a commencé en avril quand le régime syrien a lancé une offensive sur le sud de la province contre les groupes djihadistes qui la dominent. Offensive accompagnée de bombardements qui n'ont jamais épargné les zones civiles pour repousser les populations vers le nord. Résultat, plus de 500 000 déplacés et près d'un millier de civils tués par un régime qui n'a jamais caché son intention de reprendre Idlib, l'un des derniers territoires qui échappe encore à son contrôle. Cette bataille est la dernière, estimait d'ailleurs Bachar al-Assad en octobre lors de sa première visite dans le sud d'Idlib depuis 8 ans, depuis le début de la guerre civile. Pendant ce temps-là au nord, s'ajoutent aux bombardements des conditions de vie toujours plus difficiles, pénurie et flambée des prix avec l'effondrement de la livre syrienne ces dernières semaines, lié à la crise au Liban voisin, froid, boue et humidité aussi, après des pluies diluviennes qui ont inondé les camps de centaines de milliers de Syriens déplacés dans la province.
43 morts selon un dernier bilan à New Delhi dans l'incendie d'un bâtiment qui, selon les secours, hébergeait des travailleurs pauvres. Dans nombre de grandes villes indiennes, les usines et petites unités de fabrication sont situées dans des quartiers anciens et exigus où le prix de l'immobilier est moins élevé. Pyongyang ambitionne de changer, je cite l'agence officielle du régime, de changer de statut stratégique en faisant publicité d'un test qualifié d'important sur sa base de lancement de satellites de Soai, un test entouré de mystères mais significatif de l'impasse des négociations sur le nucléaire entre la Corée du Nord et les États-Unis. Présenté par l'un des responsables du mouvement pro-démocratie comme une dernière chance pour se faire entendre, la manifestation de ce dimanche à Hong Kong cible Carrie Lam, la chef de l'exécutif, incarnation de la fermeté et de la surdité de Pékin, moyennant quoi la police hongkongaise a autorisé ce défilé, une première depuis la mi-août. C'est une correspondance d'Angélique Forget, basée à Shanghai.
C'est la première fois depuis août dernier qu'une manifestation pro-démocratie est autorisée à Hong Kong. Derrière de larges bannières sur lesquelles on pouvait lire « Free Hong Kong »,« Libérer Hong Kong », des dizaines de milliers de manifestants, dans leur grande majorité masqués pour ne pas être identifiés, ont défilé pacifiquement. Pas de violence, c'était le mot d'ordre de ce rassemblement organisé par le Front civique pour les droits de l'homme. 200 agents de sécurité ont d'ailleurs été déployés pour éviter tout affrontement avec la police. Depuis le raz-de-marée du camp pro-démocratie lors des élections locales à la fin du mois de novembre, les manifestants avaient déserté les rues de l'ancienne colonie britannique, leur large victoire leur ayant donné un peu de répit. Aujourd'hui donc, ce rassemblement avait valeur de test et après 6 mois de contestation, ils ont prouvé que l'État de la mobilisation était toujours intacte. Un appel à la grève a par ailleurs été lancé pour demain lundi. Elle vise à perturber les transports publics. Le gouvernement de son côté se montre toujours aussi inflexible alors que les manifestants réclament entre autres l'instauration du suffrage universel pour élire le chef de l'exécutif et la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur les violences policières.
Angélique Forget à Shanghai. 2 indigènes ont été tués par balle, 2 autres blessés hier lors d'une attaque dans l'état brésilien de Maranhão dans le nord-est du pays, plus d'un mois après la mort d'un défenseur de la forêt amazonienne dans cette même région. L'ONG Survival International, qui accuse les autorités brésiliennes de ne pas avoir la volonté de protéger les terres indigènes, déplore des dizaines d'assassinats. Nous tiendrons jusqu'au bout, comprendre jusqu'à faire renoncer le gouvernement à la réforme des retraites. Ainsi, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, affiche-t-il la détermination de son syndicat. Détermination à lutter contre cette réforme, détaillée mercredi prochain par le Premier ministre au lendemain d'une nouvelle mobilisation à l'appel d'une intersyndicale. Philippe Martinez, qui est en ce moment même, vous allez l'entendre, l'invité, nos confrères de France Inter.
Quand on a un tel niveau de mécontentement, on réfléchit et on dit la réforme, c'est pas la bonne, donc on remet les compteurs à zéro et on retravaille d'autres hypothèses à partir des propositions que fait la CGT, par exemple. C'est tout ce qui va avec. Or, nous avons fait la démonstration que ce système et tout ce qui va autour, par exemple le calcul sur l'ensemble de la carrière, va faire perdre à tout le monde, hormis à, de façon marginale à quelques-uns. Donc, c'est ce que nous disions, tout le monde perdant. Donc, ce qui prouve que ce système n'est pas bon. Donc, il faut recommencer. Et nous prétendons, et nous ne sommes pas les seuls, que nous avons un des meilleurs systèmes de retraite au monde qu'il faut juste améliorer.
Alors, autre voix cette fois, celle d'Emmanuel Wargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Elle était ce matin sur France Info.
Nous avons aussi besoin de rassurer sur les fondamentaux. Par définition, les retraités d'aujourd'hui ne sont pas concernés. Les retraités ou les personnes actives qui partiront à la retraite avant la date de changement ne seront pas du tout concernés. Et ceux qui partiront à la retraite juste après la date de changement verront leur retraite en fait calculée sur la base des anciennes règles pour toute leur carrière, sauf les quelques années après la date de changement. Et puis enfin, les enseignants, qui sont ceux qui, à juste titre, pouvaient être inquiets parce que les nouvelles règles ne leur sont pas favorables, les enseignants, nous avons dit que le travail serait fait pour que leur pension ne baisse pas, parce que nous allons revaloriser leur carrière.
Alors, après plus de 800 jours de concertation, l'un des membres du gouvernement, vous venez de l'entendre, fait encore assaut de pédagogie. Et si blocage et inquiétude persistent, selon l'analyste politique Denis Jambard, c'est bien parce qu'il y a eu des maladresses jusqu'à brouiller et l'image et la place qu'occupent le président de la République et son parti sur l'abscisse politique. Denis Jambard avec Cosima Mezidi Alem.
Mais Emmanuel Macron a cru qu'il pouvait jouer au plus fin. Or, aujourd'hui, lui-même est perdu dans ses eaux troubles parce qu'il a créé une confusion générale dans la société. Ça déstabilise totalement son parti. Et ça le déstabilise d'autant plus qu'il n'a pas de base réelle dans le pays. La République En Marche n'a pas réussi à s'implanter dans le pays. Et on le voit bien à travers la difficulté qu'il a à constituer des listes, à désigner des candidats dans les élections municipales. Donc, d'une certaine manière, je dirais que Emmanuel Macron a installé à la fois son parti et son gouvernement et lui-même sur des sables mouvants.
Est-ce que cette réforme, est-ce que ça représente un peu une forme d'amateurisme politique ?
Ce projet n'étant pas détaillé, on a le sentiment que dans la méthode, en effet, il y a un véritable amateurisme, une forme de certitude qui occupe le président de la République tout entier et qui fait qu'il avance sans connaître la réalité du pays. On voit là, comme on l'avait vu d'ailleurs il y a un an dans l'affaire des Gilets jaunes, que le chef de l'État a beaucoup, malgré sa très grande intelligence, et des projets qui pourraient être véritablement défendus, eh bien malgré tout ça, il ignore tellement le réel qu'il se met en décalage et en danger.
Mais alors vous, comment vous la voyez la suite de cette réforme, la suite de cette mobilisation ? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose ?
Il est très difficile aujourd'hui, ce dimanche, de prévoir ce qui va se passer au-delà de mercredi et la présentation du projet. Mais j'ai pas l'impression que les syndicats, en tout cas les plus radicaux, et en tout cas la CGT, qui voient en plus une occasion de se refaire une santé après le succès des manifestations de jeudi dernier, eh bien, je vois mal la CGT rendre les armes très rapidement et ne pas tenter de prolonger le combat, d'autant qu'elle veut, elle, qu'on ne parle plus d'une réforme des retraites en installant un système par points.
L'analyste Denis Jambard avec Cosima Mezidi Alem. Une plainte pour non-assistance à personne en danger a été déposée mi-septembre contre le SAMU du Haut-Rhin. Après le décès d'un père de famille à son domicile à Colmar fin août, victime d'une occlusion intestinale, c'est une information que l'on doit à nos confrères de France Bleu Alsace. La famille des victimes estime que le SAMU n'a pas su évaluer l'urgence et la gravité de la situation. Il est presque 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. La Grèce ne décolère plus depuis que Tripoli a signé un accord avec la Turquie sur la délimitation maritime. Athènes avait demandé à la Libye le contenu de cet accord controversé, expliquant que les deux pays n'avaient pas de frontières communes et que de surcroît, la situation politique est suffisamment confuse en Libye pour donner une quelconque valeur juridique à ce texte. L'ambassadeur du gouvernement Sarraj en Grèce a reçu vendredi un ordre d'expulsion. Il faut dire que la découverte de réserves de gaz et de pétrole au large de Chypre, dans le sud-est de la Méditerranée, a déclenché ces dernières années une dispute entre Nicosie, appuyée par la Grèce et l'Union européenne, et Ankara, qui occupe le nord de Chypre. Il n'y en avait plus depuis 23 ans. Un ambassadeur américain sera bientôt nommé à Khartoum. En recevant officiellement mercredi le Premier ministre du gouvernement de transition soudanais, Abdallah Hamdok, Washington a promis de retirer le Soudan, pays qui avait accueilli Ben Laden, de sa liste des États qui soutiennent le terrorisme. Les États-Unis conditionnent toutefois ce geste aux progrès qui seront faits pour concrétiser la transition démocratique. L'OPEP et la Russie, alliés du cartel pétrolier, ont décidé de baisser de manière plus significative leur production pour soutenir les cours du brut. Cette baisse d'au moins 500 000 barils par jour portera l'effort total de limitation de la production à 1,7 million de barils par jour dans l'ensemble du groupe. Avant d'aboutir à cet accord, l'Arabie Saoudite s'est agacée. Des pays qui ne jouent pas vraiment le jeu étaient visés, notamment l'Irak, le Nigeria et la Russie. En Inde, une série de viols révulse actuellement l'opinion publique. Les Indiens sont en colère, ils réclament justice pour les victimes. Mais les circonstances de la mort de 4 suspects de viols dans la ville méridionale d'Hyderabad divisent le pays. Les accusés ont été abattus vendredi lors d'une reconstitution organisée en pleine nuit par la police. C'est une correspondance de Clémence Desprez. À New Delhi.
C'est une affaire au dénouement dramatique. Les 4 suspects du viol collectif et du meurtre d'une vétérinaire de 27 ans à Hyderabad la semaine dernière ont tous été abattus par la police vendredi. L'atroce agression de la jeune femme avait suscité l'indignation et la colère à travers tout le pays secoué par une série de viols. C'est dans ce contexte que toute une partie de la population a applaudi le geste de la police. Des centaines de personnes se sont rendues sur les lieux, jetant des pétales de fleurs aux policiers, considérés comme des héros. Sur les réseaux sociaux, une partie de la classe politique indienne s'est réjouie de la tournure des événements. Au courant de la semaine, déjà, une députée avait appelé, dans l'enceinte même du Parlement, à ce que les coupables soient lynchés. Mais les circonstances de la mort des suspects suscitent de vives inquiétudes. La police affirme leur avoir tiré dessus lors d'une reconstitution organisée en pleine nuit. Les accusés seraient parvenus à s'emparer des armes de leurs gardes et auraient alors tenté de s'enfuir. Une version des faits à considérer avec prudence dans un pays où la police est fréquemment accusée de crimes extrajudiciaires, que ce soit pour couvrir des affaires ou encore pour calmer l'opinion. La police a-t-elle voulu rendre justice elle-même ? Une enquête a été ouverte par la Commission des droits de l'homme.
Donald Trump, qui remerciait hier soir l'Iran et évoquait une négociation très juste, c'est une déclaration rarissime du président américain, faite à l'occasion d'un échange de prisonniers, un Iranien détenu aux États-Unis et un Américain détenu en Iran. Mais Loïc Loury, ces remerciements sont loin d'être considérés comme un signe de détente entre Washington et
10 ans de prison pour espionnage, c'est la peine que Siwei Wang, chercheur sino-américain, devait purger en Iran. Le jeune doctorant, historien à Princeton, était sur place pour mener ses travaux avant d'être incarcéré en août 2016. Scénario similaire pour le professeur Massoud Soleimani, spécialiste des cellules souches. Il s'était rendu outre-Atlantique il y a un an, immédiatement arrêté à son arrivée à Chicago. Aujourd'hui, les deux hommes sont donc libres. Vous voyez, dit Donald Trump sur Twitter, nous pouvons parvenir à un accord ensemble. Côté iranien, le chef de la diplomatie, lui, se disait ravi que les deux hommes puissent enfin rentrer chez eux. Mais derrière cet échange d'amabilité, difficile d'entrevoir un quelconque réchauffement entre les deux pays. La relation, au mieux, est glaciale depuis le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien. Nous continuons d'appeler, affirme d'ailleurs le secrétaire d'État américain, à la libération de tous nos ressortissants injustement détenus en Iran.
L'université new-yorkaise Columbia a pris la décision d'intégrer jusqu'à 30 étudiants réfugiés aux États-Unis dont les frais de scolarité et d'hébergement seront intégralement pris en charge. Ce programme constitue le prolongement d'initiatives entreprises dès 2016 et qui avait déjà vu 7 étudiants syriens rejoindre la prestigieuse faculté.
À dimanche prochain.
À dimanche prochain. Merci à vous, Nabila Amel. Quelques mots de la météo de l'après-midi, des averses et du vent de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au nord en passant par la région parisienne. Alternance de soleil et d'éclaircies sur le quart nord-ouest, soleil au bord de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia, la technique Jean Frédérix.